Les balados au IC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série d'entretien Pop en stock.
Chers popophiles, popovores, popophages de tout poil, nous voici revenus donc pour une nouvelle émission de Pop en stock en format zoomesque et transatlantique. Et effectivement, nous nous retrouvons des deux côtés de l'Atlantique encore une fois. Nous avons la grande chance, l'honneur, le plaisir de recevoir aujourd'hui Lloyd Sherry et David Meulement pour un immense travail qui s'appelle « Tout sur Dune ». Un MOOC, on reviendra sur l'expression, que je ne connaissais pas d'ailleurs avant d'avoir lu votre livre, et qui sont donc les introducteurs donc pour nous de cette vaste entreprise collective. Bonjour Lloyd, journaliste spécialisé en science-fiction, qui anime un splendide podcast dont je suis sûr que plusieurs de nos auditeurs et auditrices ont déjà entendu parler, c'est plus que de la SF et qui est vraiment un grand podcast dans la francophonie consacré à tout ce qui est relatif à la science-fiction, qui d'ailleurs, on en parlera aussi, vient de consacrer une immense batterie d'émissions autour de Dune, dont Lloyd, tu es le grand fan et exégète tout ensemble. Et puis, nous recevons aussi David Meulement, philosophe et aussi éditeur d'une maison d'édition aussi extrêmement intéressante aux Forges de Vulcain que nous célébrons et dont nous félicitons l'existence depuis 11 ans. C'est quoi aux Forges de Vulcain, David ?
Alors, aux Forges de Vulcain, c'est une maison d'édition qui publie à la fois des littératures de l'imaginaire et de la littérature générale, à la fois de la littérature francophone et de la littérature traduite. Parmi les auteurs un peu connus qu'on a dans le catalogue, il y a Luke Reinhardt, l'auteur de L'Homme D, on a Rivers Solomon, l'autoriste de science-fiction, et on a Charles Yu, qui est le lauréat du National Book Award 2020. Et parmi les Français, il y a Gilles Marchand et puis deux auteurs d'imaginaire, de fantasy, qui sont Guillaume Chamanichian et Claire Duvivier. Claire Duvivier qui avait été repérée pour un roman qui s'appelle Un long voyage, qui a gagné beaucoup de prix en France. Alors, les livres sont disponibles au Canada, donc on n'est pas très connus au Canada, mais nos livres sont disponibles. Donc, il y a quelques librairies qui nous soutiennent à Québec.
Bon, je pense que on est dans la bonne émission pour avoir des amateurs, des fans de fantasy et de science-fiction et d'auteurs cultes comme Luke Reinhardt. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette entreprise ?
Alors, moi, initialement, je suis philosophe de formation, mais j'ai toujours été passionné de lecture. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais envie, en fait, de publier des textes. C'est-à-dire, j'avais des amis qui écrivaient. Et donc, le passage s'est fait assez naturellement de l'enseignement de l'université à l'édition. Et voilà, et les deux textes qui m'ont vraiment beaucoup marqué quand j'étais adolescent, c'était « Les Dépossédés » d'Ursula K. Le Guin et « Dune » de Frank Herbert. Donc, pouvoir des années après écrire à la fois sur Ursula K. Le Guin, parce que je viens de diriger une monographie sur Ursula K. Le Guin qui est aux éditions ActuSF, et travailler sur Dune grâce à Tout sur Dune, publié par les éditions La Talente et les éditions Léa, sous la férule de notre ami et de notre grand chef à tous, Lloyd Sherry. C'est une belle année parce que c'est les deux autrices, auteurs qui m'ont donné envie d'être éditeur, sur qui j'ai eu l'occasion d'écrire cette année. Voilà.
Super. Non, félicitations pour tout ça. Et Lloyd, effectivement, d'où vient cette idée aussi, qui tombe vraiment à point nommé avec l'adaptation que l'on sait de Denis Villeneuve. D'où est venue cette passion pour Dune, Lloyd, initialement ?
En fait, c'est assez rigolo parce que moi, j'ai découvert Dune enfant grâce aux couvertures de Wojtek Szumak dans la collection Pocket. Donc, Dune est sortie en 70 en France dans la collection Ailleurs et Demain de Robert Laffont. Et puis en 1980, elle a été publiée en deux. Elle a été divisée en deux parties, en fait. Donc, du coup, moi, j'ai découvert Dune, puisque mon père avait les premiers volumes en poche. Et donc, il y avait ces couvertures de Wojtek Szulmak qui étaient très impressionnantes, notamment L'homme aux yeux bleus dans le désert. Et c'est cette couverture qui aurait donné envie à Denis Villeneuve d'ouvrir le livre pour la première fois. Donc, moi, j'ai découvert Dune comme ça. Après, j'ai vu le film et ça m'a donné envie de lire le livre. Et puis, j'ai plus du tout travaillé sur Dune pendant, je pense, au moins une bonne quinzaine d'années, à peu près, où j'ai plus du tout ouvert le livre ni vu le film. Et ce qui s'est passé, c'est que le Point m'avait demandé de faire un article sur Dune en quatrième vitesse pour un hors-série. Je devais faire un 4 pages et donc j'avais interviewé plusieurs personnes, dont David Mulmans, qui était déjà là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel pour la sortie du film de Denis Villeneuve et que c'était une œuvre hyper vaste, hyper passionnante et très intéressante et qu'il y avait quelque chose à faire. Donc du coup, moi, j'ai vraiment commencé comme ça l'aventure. Et puis, bah, j'ai été aspiré dans le sable d'Arrakis et finalement, tout ce que j'ai fait, ça n'avait pas du tout je ne pensais pas du tout que ça allait faire ça, quoi. Le succès, déjà, on en est à peu près à 17 000 exemplaires vendus.
Ouais, bien, c'est impressionnant.
Que Denis Villeneuve soit à l'intérieur et même, entre guillemets, valide le livre, c'était vraiment la belle histoire. Donc, tout ça a fait que j'ai été entraîné par Dune, mais c'est rigolo parce que je pense que Dune a fait cet effet-là à beaucoup de personnes. Il y a eu des illustres génies qui ont voulu attaquer Dune et adapter Dune. Et je pense que c'est une œuvre qui vraiment attire les gens. Et comme moi, elle m'a attiré, alors que je n'étais pas forcément le plus grand fan de Dune. Mais par contre, j'en suis devenu un de ses plus grands défenseurs, je pense.
Oui, absolument. Le livre, il tombe à point nommé à plusieurs niveaux, pas seulement pour l'excellent timing, mais ça comble aussi un relatif vide. Il m'était arrivé de travailler sur Dune il y a un certain temps, et en fait, il existait peu d'ouvrages, très peu en français. C'est notre collègue de l'Université de Sherbrooke, Isabelle Lacroix, qui a publié un des livres précédents de ce que vous avez fait, c'est Les enseignements de Dune. Donc, il y avait évidemment beaucoup de critiques ponctuelles, donc Jacques Goymard, etc., etc. Enfin, tous les grands exégètes français de la science-fiction en avaient parlé à un moment ou à un autre, mais il y avait très peu de monographies. En général, on peut dire qu'il y a peu de monographies sur la science-fiction encore en langue française. Et on se rend compte que même en anglais, de manière surprenante, ce n'était pas non plus une œuvre qui n'était pas du tout étudiée au même niveau que, par exemple, la trilogie du Seigneur des Anneaux ou que d'autres grandes figures de la littérature, de l'imaginaire. Donc, Dune était à la fois une œuvre vraiment culte, mais à la fois une œuvre qui, de manière un peu étonnante, c'est un peu la même chose pour Fondation. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a très, très peu de monographies consacrées à Fondation. Et puis même dans l'immense labyrinthe des écrits sur la science-fiction en anglais, finalement, bizarrement, il n'y en a pas non plus tant que ça sur Fondation. Donc, il y a comme ça des figures fondatrices, pour reprendre le terme de Fondation, mais il y a comme ça des figures fondatrices qui n'ont pas été tant interrogées, qui ont surtout été aimées, je pense, par des générations de lecteurs et lectrices, mais qui n'avaient pas été entièrement étudiées. Très intéressant. D'ailleurs, le format lui-même, moi, je ne connaissais pas cette histoire de MOOC. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, et comme ça, on présente la chose aussi. Si j'ai bien compris, c'est la concentration entre magazine et livre, non? C'est ça l'idée de MOOC?
Voilà, tout à fait. Alors, en fait, la première édition, c'est le MOOC. Donc, c'était vraiment cette idée de ressembler à la revue 21 ou la revue America. À ce moment-là, c'est des revues qui étaient gérées par différents journalistes et qui avaient innové en s'inspirant de ce que se faisait la presse américaine, qui est beaucoup plus créative que notre presse. Et donc, l'idée était de mélanger les deux, donc d'avoir le côté revue et le côté beau livre. Du coup, ça permet beaucoup de choses d'avoir ça, notamment en termes d'images photo et de copyright. Avoir le format presse, c'est très intéressant, beaucoup plus que le format beau livre, notamment pour des questions de droit. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais vraiment faire comme America. C'était ça, moi, qui m'inspirait à l'époque. Donc, c'était une revue qui était co-gérée par Eric Fotorino, ancien grand journaliste du Monde, qui fait aussi le 1 Hebdo. Et donc, moi, je me disais, pourquoi pas faire ça pour la science-fiction. Et ce format était pas mal, surtout qu'à ce moment-là, on n'était pas sûr, on pensait peut-être le vendre dans les kiosques et dans les relais. Et puis, finalement, à ce moment-là, le kiosque s'est vraiment effondré, avec des problématiques avec Prestalis qui ne payait plus les gens, enfin les médias. Donc, on s'est dit qu'on allait plutôt le vendre en librairie. Donc il y a tout un jeu de l'édition qui s'est engouffré dans ce, dans cette aventure. Et du coup, le format MOOC est pas mal parce que je pense que les gens ont de moins en moins de temps pour lire. Enfin, ça paraît de plus en plus logique. Et l'idée d'aller piocher dans des articles au fur et à mesure qu'on avait envie permettait un peu de, voilà, de résoudre cette équation du temps et de se dire, bah, au lieu de passer 3 jours ou 4 jours à lire un essai, je vais plutôt y revenir, il y aura des images, il y aura toute une immersion, en tout cas quelque chose de formellement beaucoup plus accessible et qui donne vraiment envie. C'est vrai que, bon, bah, Antonio, tu le sais, hein, on est dans le format, on est dans la culture de l'image, et l'image n'a jamais été aussi forte. Et donc, c'est vrai qu'incorporer beaucoup d'images à l'intérieur et des illustrations et des choses comme ça faisait vraiment partie de l'expérience, puisqu'on voulait aussi proposer une expérience aux gens qui découvraient ce livre. Et puis, enfin, il fallait que ce soit un peu grandiose, un peu mégalo. Donc, du coup, voilà, c'est mon côté, la folie des grandeurs, le film de Funès. Comme c'était Dune, et comme il y a toujours eu cette aura de film maudit, de film grandiose, de film mégalo et de tout ça, on a voulu faire quelque chose de totalement mégalo et ça nous a coûté 120 000 euros, ce qui est énorme dans l'édition. Et donc, du coup, sans le crowdfunding, puisqu'on a fait un financement participatif, ce projet n'aurait jamais existé parce que beaucoup d'éditeurs, notamment David Meulemans ici présent, n'auraient pas forcément dépensé autant d'argent dans un projet comme ça.
Non, et vraiment, c'est extrêmement séduisant. Effectivement, ça a la force. En fait, ça a la force des hors-séries des magazines, donc qui est justement d'être des vraies équipes, des vraies collaborations avec beaucoup de points de vue, avec une sorte de nécessité de la synthèse qui est souvent bienvenue, donc de ramasser et de concentrer la pensée de chacun, chacune, etc. Le côté visuel, évidemment, très, très fort dans tout sur Dune, avec toutes sortes de sources, on en parlera tantôt. Et en même temps, ce qu'on n'a pas nécessairement dans les hors-séries, c'est d'avoir vraiment l'étendue nécessaire pour le propos. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a vraiment tous les aspects qui ont été couverts, de ce à quoi on peut penser autour de Dune. Comment ça s'est passé, donc, l'organisation un peu de tous ces articles? Est-ce que c'était déjà des idées de thèmes que tu avais ou est-ce que c'est les gens qui ont proposé?
Alors, moi, j'ai fait vraiment le travail d'un rédacteur en chef, donc je me suis occupé du chemin de fer. J'avais une vision, alors elle était, on va dire que j'ai été très influencé par les hors-séries pour lesquelles j'avais déjà travaillé pour le Point Pop. Et bah, du coup, ouais, moi, j'étais inspiré, en fait. Donc, je voulais un chemin de fer qui divisait un peu les grands axes, donc une partie sur Frank Herbert, une autre sur l'univers, une sur les personnages et enfin les adaptations et la partie réflexion. Du coup, près de, on va dire à 85%, c'est moi qui ai eu les idées d'angle et c'est moi qui ai sélectionné les gens avec qui je voulais travailler. Donc du coup, j'étais vraiment le chef d'orchestre à ce niveau-là. J'ai laissé en effet une partie pour, on va dire, la surprise et les propositions. Et donc, j'ai eu des gens qui, quand ils ont appris qu'on faisait un crowdfunding et qu'on faisait un projet sur Dune, ont spontanément proposé des articles. J'ai malheureusement pas pu tout garder, mais j'ai pu intégrer des gens au fur et à mesure de l'aventure. Donc, c'était vraiment, l'idée était de, en fait, c'était un peu, j'avais moins le symbole de l'escargot. C'est-à-dire que vous commencez, plus vous avancez dans le MOOC, plus c'est profond dans la précision. Donc, il y avait un peu cette idée-là d'arriver à s'immerger au fur et à mesure. Donc, après, il a fallu... peut-être, et c'est intéressant parce que je pense, je réfléchis hein, pour les prochains MOOC, en ayant bien discuté avec les gens qui ont lu, c'est vrai que beaucoup de gens préféreraient avoir des articles plus longs, par exemple. Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup anglé sur d'avoir beaucoup de personnes, puisque l'idée était de réunir un crowdfunding, donc d'avoir une équipe la plus grosse possible pour attirer beaucoup de gens à acheter ce projet. Donc bah, l'équipe elle est de 60 personnes avec 8 illustrateurs, enfin c'est vraiment une grosse équipe. Et donc à l'avenir, je me dis que finalement, bon, on a pu prouver cette fois-ci, mais que les gens sont assez sensibles aussi à avoir des longs articles, des longues analyses de plutôt de 4 à 6 pages que du 2 pages qui est finalement une petite introduction qui permet de dire quand même beaucoup de choses en 2 pages, moi je pense, mais en fait il y a une appétence aux gens d'aller encore plus loin dans l'expérience et dans la réflexion.
On peut comprendre, effectivement, bah, tout est, c'est très zen, il y a toujours le bon côté, le mauvais côté. C'est, le bon côté, c'est que de cette manière, c'est vraiment choral et il y a vraiment plein d'entrées dans l'univers de Dune qui se succèdent. Donc, je trouve que c'est une réussite. Après, de l'autre côté, effectivement, c'est toujours bien pour certains sujets de pouvoir avoir un peu plus de latitude, mais je trouve que le principe, en tout cas, il est très bien. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de marge, précisément, entre 60 collaborateurs et puis peut-être 40. Bon, je pense que c'est peut-être la géométrie variable permet que c'est faisable de faire quelque chose qui garde un peu le côté choral et peut-être qui permet d'avoir quelques articles plus longs. En tout cas, tel que c'est vraiment très bien. Je pense que tout le monde s'est vraiment prêté à cet exercice de synthèse. Si vous le voulez bien, on peut y aller un peu au fur et à mesure. Lloyd, tu as surtout, donc, pour ce qui est de mettre la main à la pâte du texte, tu as surtout mené les entretiens, plusieurs entretiens avec des figures énormes, telles que Brian Herbert, Gérard Klein, Wojciech Ziudmak, Denis Villeneuve lui-même, mais aussi des lecteurs et lectrices. Ça, c'était intéressant aussi pour la suite de Dune. Et qu'est-ce que tu retiens le plus de cette expérience, de tous ces entretiens qui ont dû être assez passionnants, j'imagine?
Ouais, alors c'est vrai qu'au début, je voulais écrire un peu plus. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est quand vous gérez ce genre de projet, en gros, vous ne faites que de la relecture et que de la gestion.
Ouais, bien sûr.
Et voilà, finalement, le temps d'écriture, puisque ça prend du temps, voilà, c'est bah, du coup, vous le sacrifiez un petit peu. Et puis j'ai juste fait un petit papier un peu enquête sur Edune rencontre à la France qui racontait un peu l'aventure éditoriale française. Moi j'aime beaucoup le format de l'interview. J'en fais toutes les semaines avec C'est plus que de la SF. Du coup non, moi j'aimais bien le format de l'entretien. Je trouve que l'interview c'est un très bel exercice. On peut dire beaucoup de choses et puis on peut passer du temps. C'est vrai que être avec Gérard Klein pendant 2 heures c'était super. Mettre en avant Wojciech Ziudmak, voilà, bah, qui est une légende, c'était aussi vraiment intéressant. Donc, moi, en fait, dans cette aventure-là, il y avait la notion de rencontre qui était importante, puisque je ne connaissais pas évidemment tout le monde. J'ai fait travailler beaucoup de gens, mais je ne connaissais pas bien les gens, forcément. Et du coup, rencontrer des gens, créer des connexions, ça faisait vraiment partie de cette aventure que je voulais mener. Et les entretiens, bah, des fois, c'est un peu stressant. Je vais t'avouer que pour Denis Villeneuve, je n'étais pas forcément serein et j'ai beaucoup travaillé en amont. Parce que bah, voilà, vous avez un temps donné, un nombre de questions à poser à Denis Villeneuve. On a intérêt à pas se louper vraiment et arriver à mélanger les questions profondes et aussi les questions un peu rigolotes, un peu sympas qui font sourire pour aérer aussi la lecture.
Le premier entretien, si je ne me trompe, c'est vraiment, il est très touchant. C'est Brian Herbert, puisque au fond, il y a toute cette histoire très touchante de la relation avec son père. Et je trouve que justement, dans l'entretien, ça transparaît. Et ça, c'est une des forces des entretiens dans le livre. Brian raconte finalement cette histoire très compliquée avec un père. Alors, ce qui est curieux, c'est que Herbert lui-même venait d'une famille un petit peu dysfonctionnelle, disons, avec des parents alcooliques, etc., sous la Grande Dépression, et qu'il semble quand même n'avoir pas été non plus une figure paternelle absolument enchanteresse, et que donc la réconciliation qui s'est faite avec son fils est plus tardive. Et c'est une des choses que je ne connaissais pas.
Oui, en fait, tu as deux aspects dans cette interview qui sont intéressants. Nous, donc avant, il y a le portrait, hein, donc on raconte un peu les parts lumineuses et les zones d'ombre de Frank Herbert, donc qui est un père abusif, qui est clairement homophobe, qui a un rapport très compliqué avec ses enfants, avec le détecteur de mensonges qu'il trafique pour quand ses enfants font des bêtises et bateau ou tard.
Ça fait Ben Gesserit total. En fait.
Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait Ben Gesserit. Et en même temps, toutes ces informations-là, on les a de Brian Herbert dans sa biographie Dreamer of Dune. Donc du coup, il y a eu deux questions intéressantes. C'était bah, en effet, on va dire atténuer le côté terrible du père qu'on montrait dans le portrait et quand même que lui puisse s'exprimer en tant qu'enfant. Et puis évidemment, il y a une forme, entre guillemets, de rétropédalage, de Brian Herbert avec l'arrivée du film. On sent bien qu'il atténue les propos parce que, bon, bah, on est dans un moment très fort.
Ce qui est intéressant, c'est le côté humain, effectivement. Je n'avais pas lu la bio, ça m'a donné très envie de la lire. Mais finalement, ça devient une histoire très belle puisque Brian, finalement, non seulement il y a cette sorte de rédemption de la relation entre le père et le fils, mais il y a le fait que Brian continue toute l'œuvre, l'univers, ce qui est assez fascinant parce que moi, ça me faisait penser à Christopher Tolkien et ça me faisait penser à deux trajectoires un peu parallèles par rapport à deux pères totalement tutélaires de l'imaginaire, etc. Et deux fils qui ont suivi deux voie différente de la filiation avec l'œuvre. Donc, Christopher, ce qu'il a énormément consacré, il a consacré toute sa vie finalement à la restitution de l'œuvre du père avec toutes les variantes, passer au travers tous les manuscrits, etc., etc. Donc, vraiment l'idée de reconstituer l'œuvre du père. Et dans Brian, il y a eu plus l'idée de compléter l'œuvre du père et de lui-même faire une place dans cet univers de son père. Donc, c'est une manière assez intéressante aussi de quand on pense du côté de la filiation. Je trouve que c'est deux histoires très intéressantes par rapport à... Tu interviews aussi Gérard Klein, donc une des grandissimes figures de la SF en France, qui raconte un peu justement comment ça s'est passé, l'introduction de Dune en France, etc. Le parallélisme, je pense qu'effectivement, la France est quand même une grande terre d'accueil de la science-fiction. On le sait que beaucoup de figures qui, à l'époque, aux États-Unis, étaient juste des écrivains de paperback pour les fans, etc. Je pense qu'en France, le travail de quelqu'un comme Klein a réussi à beaucoup légitimer intellectuellement le genre. Bon, évidemment, le fait que des gens comme Boris Vian, etc., s'étaient intéressés, mais je pense que finalement, ça a créé une sorte d'histoire d'amour assez particulière de la France avec la science-fiction anglophone. Tu interviews aussi, justement, le créateur de ces couvertures totalement psychédéliques et emblématiques des années des 60s et des 70s. Donc, Wojciech Siudmak, je pense que ça a dû être un bon moment aussi pour toi de retrouver l'auteur de la couverture qui t'avait séduite quand tu étais gamin, non?
Ouais, bien sûr. Et puis, en fait, surtout, il y a une vraie belle histoire avec Wojciech. Ça veut dire que Wojciech, c'est un monsieur qui a plus de 80 ans, qui est toujours aussi dynamique, qui est vraiment incroyable. Et en fait, il a été hyper touché, je pense, de voir quelqu'un plus jeune que lui décide de le mettre en avant, et autant le mettre en avant. Et Wojciech a été adorable parce qu'il nous a littéralement donné les illustrations, il nous les a envoyées. Et en fait, son travail resplendit dans ces deux ouvrages, que ce soit le MOOC Dune et Tout sur Dune. Et c'est vrai que c'est le côté magie, c'était aussi de mettre en avant tous les gens qui ont travaillé dans l'ombre pendant des années et qui sont peut-être un peu oubliés. Gérard Klein est quelqu'un de malheureusement oublié maintenant, alors que clairement, avec Jacques Guamard, enfin avec Sadoul et Guamard, ce sont les trois personnes qui ont créé vraiment le genre de la SF en France. Et c'est vrai que Wojciech Siudmak, c'est quelqu'un de très touchant, qui, je pense, est un vrai génie visuel, qui est aussi très drôle parce que, il adore la France, il adore la Pologne, et donc il essaye de faire vraiment des choses entre les deux pays. Et du coup, il y a eu pas mal de belles histoires, notamment, je vais vous la raconter, celle-là. À l'avant-première de Dune, donc du coup, plusieurs personnes sont venues, j'avais des invitations grâce à la Warner, donc j'ai invité Wojciech, et donc j'ai envoyé un petit message à Tania Lapointe, qui est la compagne du réalisateur Denis Villeneuve, puisqu'on avait déjà échangé par le passé, et donc j'envoie une photo de moi et Wojciech en disant, Wojciech est là, on a hâte de voir le film. Et donc, quelques dizaines de minutes après, enfin 30 à 40 minutes plus tard, Denis Villeneuve dit j'ai appris que Wojciech Siudmak était dans la salle, je voudrais qu'on fasse une standing ovation pour lui et pour tout son travail. Et voilà, c'est là la magie, quoi. C'est de se dire Wojciech, il est mis en avant, et peut-être plein de gens ne savaient pas qui c'était et ont pu découvrir son travail. Et puis, Denis Villeneuve, grande classe, ainsi que Tania Lapointe, de mettre en avant ce monsieur qui a 80, plus de 80 ans, et qui est un type qui est incroyable, et moi j'adore parce que il a un côté aussi un peu mégalo, et je trouve ça génial, quoi. Donc je pense que je serai, en tout cas c'est le côté très peut-être, et David peut-être reviendra sur ça, il y a peu de choses mystiques dans Dune, entre guillemets, c'est plutôt Jodorowsky qui a apporté le côté mystique, mais il y a quand même des choses où moi je crois qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie, et donc arriver à travailler sur une œuvre, enfin si on m'avait dit à 8 ans que cette œuvre-là qui me faisait de l'œil, qui avait l'air un peu étrange, j'en ferai un livre et que je ferai travailler l'illustrateur et que je le mettrai en avant. Franchement, je ne l'aurais vraiment pas cru, et finalement, tout s'est bien agencé. Donc, c'est le côté un peu magique de cette aventure-là. Et puis, comme Jodorowsky, entre guillemets, j'ai pu réunir des guerriers spirituels comme David, qui m'a aussi fait suer à d'autres degrés.
Non, mais c'est vrai qu'il y a tout un pan fascinant de l'histoire de la science-fiction qui est l'aspect visuel. C'est vrai que ça avait été mis en avant dans les grandes histoires du genre, dans les grandes encyclopédies du genre, etc. Mais en même temps, C'est clair que c'est ce qui a contribué à créer la magie, déjà parce que le poids de la couverture est essentiel, déjà parce que c'est né dans les pulps, c'est que dans les pulps, les illustrations étaient aussi importantes presque que le texte, en tout cas pour attirer les lecteurs, etc. Et je pense qu'effectivement, à côté des grands magiciens littéraires de la science-fiction, il y a les magiciens qui ont mis en image ces concepts et ces univers-là. Et en parlant justement de magiciens, images, etc., tu as donc réussi à parler avec Denis Villeneuve. Un entretien aussi très intéressant, parce que je pense que c'est l'entretien qui va le plus au cœur de Dune lui-même, de son rapport au livre. Donc, je pense qu'on lui a fait beaucoup d'entretiens sur toutes sortes de choses, mais je pense que là, c'était intéressant de voir d'où était née sa passion. Et on voit effectivement que c'est vraiment l'œuvre d'un passionné d'un univers.
Surtout qu'on était les premiers à le faire. Ça veut dire que quand nous, on fait l'entretien, Denis Villeneuve, il répond à ça. On est juste avant l'impression, donc tout début septembre 2020. Et donc, Denis Villeneuve a quasiment fait aucune interview à ce moment-là. Et du coup, on gardera le record de l'interview unique de Villeneuve jusqu'en 2021 et jusqu'à l'arrivée de la promotion sur Dune. Et en effet, bah, finalement, et ça, ça a été aussi génial, c'est que Denis Villeneuve a donné presque sa seule interview, presque pendant un an à nous, alors qu'on n'était pas du tout connus. Mais du coup, on avait envoyé un gros dossier pour dire qu'est-ce qu'on allait faire. Et je pense qu'il a bien senti, ainsi que la Warner, le côté fan et l'envie de vraiment mettre en avant et puis d'avoir quelque chose de réflectif. Je pense que Denis Villeneuve, il a le bon côté des Nord-Américains. Et donc, bah, il y a le côté francophone qui est très important chez lui. C'est qu'il a, je pense, un rapport intellectuel à l'œuvre qui est proche de la francophonie, et donc ça permet d'aller beaucoup plus loin que peut-être le réalisateur américain qui va faire son deuxième ou troisième film dans son année et qui peut-être est plus dans le côté faire des films que dans le côté méta et dans le côté intellectuel du film. Je pense à quelqu'un comme Ridley Scott, hein, que j'admire beaucoup, et ou Clint Eastwood. Je pense que c'est des gens qui sont dans le côté productiviste du cinéma et qui ont besoin de vivre, sinon ils meurent, je pense, à travers leurs films, donc d'être dans l'action, et que quelqu'un comme Denis Villeneuve théorise vraiment son cinéma. Et donc, du coup, je pense que ce côté de discussion où il pouvait un peu se lâcher, qu'on était entre gens de bonne compagnie, entre guillemets, donc entre fans de Dune.
Déjà, ce qu'il avait fait sur Blade Runner, etc., c'est vraiment une trajectoire tout à fait intéressante, ce qu'il est en train de faire. Et je pense, oui, comme tu dis, je pense que c'est l'alliance entre l'univers d'un certain cinéma d'auteur très marqué justement par ce nouvel Hollywood des années 70, par le côté un peu visionnaire, etc. Et puis en même temps, quelqu'un qui, bon, il est très efficace, et c'est la force pour Hollywood d'un réalisateur qui est très pied sur terre, capable de mener des grands, grands projets, et sans sacrifier l'aspect visionnaire, l'aspect... Donc à la fois dans l'affect et à la fois dans la cognition, je pense qu'effectivement, c'est une belle alchimie. Vous commencez donc le travail avec la figure de Herbert. Comme on l'a dit, ce n'est pas non plus une figure extrêmement connue, dans le sens que, curieusement, c'est l'auteur de Dune. C'est-à-dire qu'en dehors de Dune, je pense que les gens n'ont pratiquement jamais rien lu d'autre de Herbert, ou en tout cas rarement. Donc, disons qu'il y a vraiment un décalage entre l'omniprésence de Dune dans le canon de la science-fiction et le fait que les autres œuvres de Herbert sont clairement des sortes d'œuvres pour les complétistes, pour les fans absolus de cette époque, de la science-fiction, etc. Mais ça n'a pas du tout eu ces statuts. Et puis, on passe dans l'univers Dune, et c'est là qu'entre David de plain-pied, puisque tu as consacré plusieurs articles donc à cet univers foisonnant. Alors, tu traites énormément de sujets. On passe de la question de l'épice à la question de l'Empire au sang conflit. Tu parles des Bene Gesserit, de Paul, des différents grands personnages, Paul Atreides, donc Dame Jessica, le Duc Leto, Wellington Yu, Alia et la Révérende Mère, Chani et Stilgar, Duncan Idaho, Tufi Hawat, Liet Kynes, Shaddam et Irulan. Pour toi, quelle a été comme la porte d'entrée dans Dune? Qu'est-ce qui t'a vraiment fasciné dans l'univers de Dune?
Comme Lloyd, j'avais découvert Dune assez tôt à l'adolescence, et je ne l'avais pas lu depuis quelques années. C'est quand Lloyd, pour une première fois dans le point, m'a posé une question que j'ai commencé à repenser à Dune, et c'est quand il a lancé son projet que j'ai commencé à relire le texte. Alors, il faut voir que, j'ai d'ailleurs, en passant, puisque tu le mentionnais tout à l'heure, moi, je n'avais jamais lu les œuvres de Brian Herbert, et j'ai commencé à lire Brian Herbert juste dans le cadre de la préparation du MOOC, même si, à terme, moi, je me suis astreint à ne parler que de Dune, c'est-à-dire je n'ai pas parlé des romans de la série Dune que Herbert a pu écrire. Je ne parle pas du Messie Dune, des Enfants de Dune. J'ai parlé uniquement de Dune, le roman initial. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est très bête, hein, là on va tomber vraiment dans des choses très pratiques, c'est que j'ai relu le livre plusieurs fois, et à chaque fois, je le lisais en pensant à un personnage en particulier. Puisque ce que m'avait confié Lloyd d'abord, c'était des sortes de longs articles sur les personnages, et donc à chaque fois, j'annotais toutes les mentions du personnage, toutes ses interventions. Et c'était intéressant parce qu'au bout d'un moment, il y a des patterns qui sont apparus, c'est-à-dire des manières de constituer des personnages, des jeux d'écho, des références littéraires que je n'avais jamais vues, mais qui étaient des références évidentes, qui à mon avis sont évidentes pour des anglo-saxons mais pas pour des français, c'est-à-dire les nombreuses réécritures de Shakespeare qu'on trouve dans Dune. C'est une réécriture d'Hamlet, c'est une réécriture de Macbeth, c'est une réécriture d'Othello, c'est une réécriture aussi du Songe d'une nuit d'été. Donc que des pièces, c'est que les grandes pièces de Shakespeare, parce qu'en fait c'est les pièces que Herbert, en tant que lycéen aux États-Unis dans les années 30, connaissait, parce que c'est obligatoire de passer par ce type de référence. Et puis après, en travaillant sur les personnages, je voyais petit à petit aussi comment se mettait en place tout un jeu de références à des événements réels des années 40 au début des années 60, tout début des années 60, des événements aussi variés que la création de l'OPEP, que le macartisme, plein d'événements en fait, et puis à partir de là aussi des références à des textes qui ont eu beaucoup de succès dans les années 50, comme Les Piliers de la Sagesse. Alors Les Piliers de Sagesse de Lawrence a eu beaucoup de succès pendant très très longtemps, mais simplement dans les années 50, c'est un des livres les plus vendus au monde. C'est ce qui explique que quelques années après, ça va inspirer David Lean pour son film Lawrence d'Arabie. Voilà, j'ai procédé un peu par couches successives. Ça me permet aussi de revenir sur ce que tu disais au début sur les études sur Dune. Comme avant d'être éditeur, j'étais enseignant-chercheur en philosophie. J'ai fait ce qu'on fait quand on est un chercheur, c'est-à-dire que je suis allé chercher la littérature savante qui existait sur Dune, et notamment je ne sais pas comment faisaient les chercheurs il y a 30 ans, mais maintenant on a des bases de données avec tous les articles scientifiques, et je les ai écumés. Et alors ça a été un peu terrifiant, parce que je me suis rendu compte que en fait Dune a inspiré peu d'articles. Donc j'ai trouvé une trentaine d'articles qui pour certains étaient des articles des années 70, donc étaient parfois pas de très bon niveau scientifique, parfois si, parfois ils étaient sur des points très très ponctuels, très très précis, c'est-à-dire pour déterminer par exemple si est-ce que Herbert fait allusion quand il parle de l'épice au LSD ou aux champignons hallucinogènes, ou peut-être même à l'alcool et à la vertu des inhibitrices de l'alcool, parce que ça aurait un sens dans sa biographie personnelle. Donc voilà, une fois que j'ai fait ces... En fait, ce qui était intéressant, c'est que moi, je suis éditeur, mais je n'ai pas l'habitude de travailler pour la presse. Et en fait, là, ce qu'a fait Lloyd et toute son équipe, c'est quelque chose qui est un objet qui est à la mi-chemin de la presse et de l'édition. On garde des choses qui sont propres à l'édition, qui est le travail de très long terme, le travail en profondeur, la nécessité d'avoir une très très forte culture littéraire pour traiter des sujets. Par contre, on récupère de la presse quelques très très bonnes pratiques qu'on n'a pas toujours dans l'édition, la nécessité de clarté et d'élégance quand on écrit, la nécessité de toujours vérifier ce qu'on affirme, c'est-à-dire de jamais délirer, c'est-à-dire que si à deux trois reprises j'ai pu présenter des hypothèses, je dis que c'est des hypothèses. Voilà, je fais une vraie différence entre ce que j'estime être un fait, et là à ce moment-là je dis c'est un fait pour telle ou telle raison, et quand c'est une hypothèse je le dis aussi.
Tu viens d'évoquer l'épice, donc l'épice d'un côté la ressource, le pétrole, le contexte de, comme tu l'évoques dans l'article, tout le contexte de la géopolitique du pétrole qui est en train de changer aussi dans les années 60, mais aussi tout l'aspect psychédélique lysergique de l'épice. Donc vraiment une sorte de symbole qui agglutine un novum en science-fiction, donc quelque chose de bizarre qui n'existe pas dans notre univers, mais qui existe dans cet univers de référence, mais un novum sur lequel s'ajoutent différentes strates de signification.
En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie esthétique de Dune, c'est-à-dire une manière de générer des idées et des scènes qui est remarquable et très particulière. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que souvent, les écrivains de science-fiction vont parler de notre monde, mais en passant par une allégorie ou une métaphore. Et donc souvent, on finit par se dire, parfois dans certains romans de science-fiction, ça aurait été presque plus intéressant de parler de notre monde de manière directe et réaliste. Et quelque chose qui est assez fantastique avec Dune, c'est qu'au lieu de faire référence à un élément de notre monde, ça fait référence à beaucoup d'éléments de notre monde en superposant des allégories. Ce qui fait qu'à la fin, Dune finit par être une sorte de puzzle complexe d'allégories, mais qui fait que, à mon avis, les années n'épuisent pas Dune. Parce qu'à chaque génération de lectrices, de lecteurs, on va pouvoir réactiver ces métaphores selon des angles différents. Il y a des choses qui vont passer au premier plan, d'autres qui vont passer au deuxième plan, mais c'est justement cette richesse de Dune et qui, pour moi, c'est une richesse qui est très, très rare dans la science-fiction parce que c'est un système d'empilement qui est très, très varié. Tout à l'heure, j'ai parlé de Shakespeare, mais là où certains écrivains auraient dit « bon, bah, je fais juste des réécritures imbriquées de Shakespeare », là, il y a aussi cette idée de « je suis fasciné par le fait que les dunes sont en train d'empêcher dans l'État d'Oregon, dans l'État de Washington, la destruction des routes, parce qu'en fait, c'est comment une construction naturelle, mais qui est encouragée par l'être humain, va protéger d'autres types de constructions. Donc, je vais commencer à parler écologie, mais il y a aussi le fait que les États-Unis sont pointé du doigt par le monde comme un régime impérialiste. Donc, je vais parler de la fin des peuples premiers au XIXe siècle. Je vais parler des guerres indochinoises. Je vais parler des royaumes arabes au début du XXe siècle. Je vais parler des Minutemen américains au XVIIe et XVIIIe siècle. Et j'empile ça à chaque fois. Je vois quels sont structurellement les liens communs entre ces différentes choses. Et il y a très, très peu d'œuvres qui sont capables de faire ça. Alors moi, une œuvre très différente pourtant, mais où je trouve où il y a un peu ce type de dispositif, c'est la série télé Battlestar Galactica, celle des années 2000, pas celle des années 70. J'y pense parce qu'il y a une partie de Battlestar Galactica où ils sont sur une planète et en fait, elle a été écrite pendant la période de la guerre d'Irak, enfin pendant le début de la guerre d'Irak, et il y a une inversion, c'est-à-dire c'est les humains qui deviennent les colonisés. Et je trouve que c'est malin comme approche. Et dans Dune, il y a aussi ça, c'est-à-dire que Dune, c'est un récit ambivalent parce que les Fremen, c'est à la fois des héros et c'est potentiellement des monstres à la fin, c'est les destructeurs du monde. Ce qui est malin aussi de la part de Herbert, c'est de montrer comment une odyssée collective, il y a quelque chose d'exaltant dedans, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de... et il y a quelque chose de dangereux. Puisqu'en fait, dans l'odyssée collective, il y a le risque, il y a plein de dictatures qui sont les pires dictatures, ne sont pas les dictatures d'un seul, c'est les dictatures de tous, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus aucun moyen pour l'individu de s'échapper. Et Dune, c'est cette ambivalence, c'est-à-dire c'est la montée de Paul Atréides qui est à la fois un personnage qu'on admire et un potentiel dictateur. Et dans l'esprit de Herbert, paradoxalement, c'est à la fois Hitler et Kennedy. Ce qui peut être très choquant, mais c'est là qu'on voit en fait sa capacité à relever des analogies très distantes, très, très, qui peuvent nous sembler incongrues, mais qui pour lui font sens et qui finissent par créer des cohérences à des personnages. Parce que Dune, en fait, c'est une sorte de grand opéra. Donc les moteurs de l'action, c'est les personnages, alors qu'en fait, on est dans une saga quasi cosmique et c'est les personnages qui mènent l'action. Et en fait, en plus, alors, parce que je peux être très bavard, donc je vais rester pour conclure sur cette partie de la discussion. Moi, ce qui était intéressant de travailler sur Dune, c'est que même mon appréciation de Dune a changé sur plein d'aspects, mais récemment, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup réévalué le rôle de Dame Jessica, parce qu'à certains égards, Dune, c'est tout le récit, toute la grande geste de Dune n'est enclenchée que par Dame Jessica, c'est-à-dire elle ouvre et elle clôt le récit. Elle ouvre le récit parce que, par amour, elle donne un fils au duc et pas une fille. Et donc, c'est elle qui enclenche les événements. C'est-à-dire qu'en d'une certaine façon, en voulant changer un plan, elle déclenche l'accomplissement du plan. Et à la fin, quand Paul annonce qu'il va épouser Irulan, on sent Shani un peu chafouine d'être comme ça négligée. Et Dame Jessica clôt le récit en disant qu'en fait, ce sont elles dont on se souviendra. Et je me dis que d'une certaine façon, moi, dorénavant, je me souviendrai toujours de Dame Jessica, qui est certes un personnage de mère en grande... C'est-à-dire que pour moi, Dune n'est pas une grande œuvre féministe, parce que ce n'est pas une œuvre qui prône l'égalité homme-femme, donc c'est une œuvre très marquée par les années 40, 50, 60. Herbert n'était pas du tout un écrivain progressiste sur ces aspects-là, mais ça reste un très beau portrait de femme et en creux, un portrait d'amour aussi, puisque l'amour de Jessica pour Leto et de Leto pour Jessica sont des choses assez belles. Mais donc, ça montre bien que les personnages sont le moteur du récit et c'est ça qui donne un lion, une richesse humaine aussi, qui permettra, je l'espère, à l'œuvre de survivre à plein de générations de lecteurs et à continuer à s'imposer.
Oui, et d'ailleurs, c'est curieux puisque c'est le traitement que donne Denis Villeneuve aussi quand justement il place l'emphase sur la figure de la mère et il a été sensible à ça. Et la série qui s'en vient, c'est carrément une série sur les Bene Gesserit et on peut imaginer que cette question du plan et de l'entorse au plan est aussi très importante. Évidemment, c'est à la fois biblique, coranique, etc. C'est-à-dire c'est à la fois toutes ces idées des grandes filiations sacrées et quel était le véritable plan. C'est-à-dire qu'au-dessus du plan des Bene Gesserit, il y a comme une autre sorte de providence quelque part où le plan est ailleurs. C'est vrai aussi qu'une des choses très intéressantes avec Dune, c'est que le livre Dune est quand même très différent si on le lit tout seul ou si on le lit avec sa suite, qui justement est comme la chute totale, enfin l'hybris, non, la démesure, le péché de démesure tragique de la djihad et des Fremen et de Paul, et où vraiment l'argument principal de Brian Herbert, qui était justement de montrer les dangers du messianisme politique, religieux, culturel, il intervient vraiment dans la suite. Et c'est très intéressant parce que si on ne lit que le premier ouvrage, ben, on reste sur une sorte de figure, quand même, une sorte d'apothéose du héros et d'une sorte relativement conventionnelle, quelque part, par rapport à la quête du héros, de Campbell, etc. etc. Alors qu'avec la suite, on a quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Et je trouve que ça aussi, c'est très intéressant parce que ça va au-delà de la simple série littéraire. C'est de dire que c'est une œuvre double, que quand elle est prise toute seule, ça donne une sorte d'épopée qui est très proche de Laurence d'Arabie, qui est très proche du livre. On dit souvent qu'en fait, Dune a été beaucoup marqué par un roman historique sur le Mahdi. C'est Sabers of Paradise, Les Sabres du Paradis, un ouvrage très peu connu des années 50, une sorte de best-seller historique, mais vraiment qui n'a pas eu de répercussions, autre que d'inspirer Herbert. Donc, on est vraiment dans cette question de l'épopée, mais prise dans l'ensemble de l'œuvre, au contraire, c'est comme le moment d'une sorte d'aveuglement messianique et où finalement les choses ne se passent pas du tout aussi bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux et qu'on ne trouve pas dans d'autres grandes sagas. C'est cette idée qu'on puisse vraiment lire de manière très différente, que l'on lise une partie ou que l'on lise l'ensemble. Tu analyses justement beaucoup les personnages. Paul est donc cette figure qui est à la fois exaltante, héroïque, etc., mais qui, quand on connaît la fin et qu'on fait une relecture de l'œuvre à la lumière de ce qui deviendra, est aussi la figure extrêmement inquiétante.
Oui, bah, tu l'as mentionné, il y a quelqu'un comme Frank Herbert connaissait le livre de Joseph Campbell qui avait été publié, je crois, en 49 et qui avait eu beaucoup de succès parce que Campbell, le livre était fascinant, c'est le héros aux mille visages et c'est Campbell, c'était quelqu'un qui était un très, très grand propagateur de sa propre œuvre et un grand pédagogue, tout simplement, même si après, le livre, même dès les années 60, le livre n'est pas très apprécié dans les milieux universitaires parce qu'il est considéré comme très schématique, il n'est pas vraiment dans l'air du temps. On dirait un livre issu du début du XXe siècle, comme Le Rameau d'Or, ou voilà, qui sont des livres plus anciens, mais il est un peu dans cette filiation-là. Herbert connaissait L'homme aux mille visages, et en fait, son projet, c'était de suivre les étapes de L'homme aux mille visages, ces étapes du héros, ce monomythe, pour après nous donner le meilleur héros possible et dire que même celui d'entre nous qui serait paré de toutes les qualités humaines, même celui-là ne doit pas recevoir le pouvoir suprême parce que le pouvoir suprême sera toujours corrompu. Sauf que je pense qu'il y avait un mauvais choix stratégique de la part de Herbert, c'est-à-dire de dire tous les moyens sont bons pour ma démonstration, sauf qu'il avait oublié cet autre axiome politique du XXe siècle qui est les moyens finissent toujours par être des fins. En utilisant comme moyen le monomythe, il a trop bien réussi. C'est-à-dire seul le volume premier de Dune, donc le roman qui s'appelle Dune, s'est imposé de manière éclatante. Les autres se sont bien vendus, mais n'ont jamais eu le succès qu'a eu le premier volume. Et donc, en fait, on a une démonstration dialectique dont on n'a que la première partie. Donc, je sais pas si... Enfin, vous voyez, bien sûr, la dialectique, c'est oui, non, peut-être. Et donc là, on a juste oui, un oui éclatant, du genre oui, pouvoir suprême à Paul Atreides. Et donc, c'est une sorte de contre-finalité pour Herbert. Parce que Herbert, ce qui est intéressant, c'est que venant de la presse, ayant un tout petit peu côtoyé la commission... question politique, mais vraiment à un poste modeste. Il est très sensible à la conversation collective, à comment on intervient dans la conversation collective. C'est aussi un auteur qui maîtrise beaucoup son œuvre, qui est très réfléchi, très écrite, très réécrite, très conseillé aussi par son épouse, notamment, qui l'épaule dans la rédaction. Et en fait, elle est vraiment pensée pour être une sorte de à la fois de conte gothique, c'est-à-dire où il y a une mise en garde, et aussi comme un texte d'intervention, en disant que la fiction permet de toucher plus de gens qu'un essai. Et en fait, de ce point de vue-là, il échoue à certains égards. C'est-à-dire que c'est souvent, en fait, de toute façon, l'intention d'une œuvre et l'intention d'un auteur, c'est deux choses bien différentes. Il y a des auteurs qui ont fait des œuvres plus petites ou plus grandes qu'eux. Donc voilà. Mais pour quelqu'un comme Herbert, qui était très rationnel et réfléchi, qui n'a pas une écriture très spontanée, l'intention d'Herbert et l'intention de l'œuvre étaient assez alignées, sauf que effectivement, c'est une démonstration en plusieurs parties, dont seule la première partie est lue massivement. Voilà. Alors après, pour donner aussi l'occasion au camarade Lloyd de réagir, le projet, on se met à rêver d'un projet de Denis Villeneuve qui serait d'adapter non pas les deux parties de Dune, mais d'adapter une trilogie, c'est-à-dire de finir dans l'espoir que le premier film et le deuxième film fonctionnent, qu'on lui dise « Cher Denis, vous avez carte blanche et faites-nous le Messie Dune pour aller jusqu'au bout ». Sans rien gâcher, je me demande s'il n'y a pas des scènes qui sont des anticipations de la chute de Paul Atreides. Je pense que ce qui est intéressant, sans trop dire sur le film, c'est que ce film, c'est une adaptation, donc ça reflète une vision particulière de Dune, des choix de privilégier certains éléments, d'en écarter d'autres aussi pour tenir dans une durée raisonnable. C'est une adaptation qui est faite clairement par des gens qui aiment Dune et qui sont passionnés par Dune, et donc ils ont, d'une certaine façon, ils sont autorisés à adapter leur propre vision parce que c'est une vision qui est sincère et réfléchie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie trahison, il y a juste leur vision qui est assez proche de l'œuvre quand même. Mais je me demande en fait si Denis Villeneuve n'a pas justement cette vision globale de Dune, de la montée, de la chute et de cette mise en garde qui peut faire sens, y compris dans le monde contemporain, parce que je me demande si ce qui effrayait Herbert face au danger dictatorial, qui n'est pas... Ce qui est particulier, c'est que Herbert, il écrit pendant la guerre froide, mais ce n'est pas l'Empire soviétique qui lui fait peur, en fait. Ce qui lui fait peur, c'est comment une opinion d'un pays démocratique et cultivé se retourne contre elle-même en abandonnant sa liberté au pied d'un souverain. Ce qui n'est pas la même chose que de lutter contre le régime communiste, qui était, dans ce roman, en tout cas, je ne pense pas que c'était son idée. Et en fait, chez Herbert, il y a quand même cette idée que le problème, c'est pas tant, par exemple, que l'Allemagne se soit donnée à Hitler, c'est pas le problème que l'Allemagne était une démocratie, c'est que l'Allemagne était un pays de gens cultivés. Et je pense que nous sommes dans des nations cultivées. Certaines sont très démocratiques, d'autres le sont moins. Mais le danger dictatorial, c'est un danger permanent. Donc, le roman Dune reste un dispositif d'alerte qui, à mon avis, sera toujours utile dans les années qui viennent.
Oui, je pense qu'il y a un futur possible pour ça, dans le sens que ça le rapproche curieusement de l'autre grande saga filmique cette fois-ci, qui est Star Wars. Et je pense qu'effectivement, cette idée du héros faillible, c'est finalement quelque part ce que Lucas a fait avec la première, avec la prélogie, donc avec la transformation donc, de Skywalker en Darth Vader. Et je pense, bon, très inspiré par Dune de toute façon, mais je pense que ce serait vraiment un très beau projet. En tout cas, pour les lecteurs et lectrices, c'est sûr que la recommandation, c'est toujours d'aller au-delà de Dune et d'aller le livre au complet réellement. C'est cette sorte de combinatoire entre l'ascension et la chute du héros. Après, c'est une autre histoire, comment la saga évolue avec d'autres personnages, etc., etc. Mais en tout cas, c'est clair que les deux premiers opus forment un tout. Tu as aussi, David, évoqué plein d'autres personnages qu'on peut considérer un peu mineurs, mais qui, chez Herbert, sont tout aussi passionnants, qui ont souvent été sacrifiés dans les différentes adaptations qui ont été faites pour des questions, évidemment, d'économie narrative. Et est-ce que tu retiendrais de tous ces personnages que tu as étudiés, qu'on citait tantôt, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais retenir
En lisant Dune, je me suis dit quand même que le docteur Yue reste un personnage fantastique, un très beau personnage. Et d'ailleurs, c'est un personnage dont finalement le moteur, c'est aussi l'amour. Donc en fait, c'est quelque chose qui a un thème récurrent dans Dune quand même. Dune qui est parfois qualifiée d'œuvre un peu froide, mais ce n'est pas du tout une œuvre froide. C'est simplement c'est lié à l'univers un peu stoïcien qui se dégage de certains personnages. Mais Yue m'a beaucoup... j'ai redécouvert Yue en travaillant sur le roman. Alors, je sais qu'on a eu des petites discussions avec Lloyd, qui est fasciné par le personnage de Duncan Idaho, sur lequel moi, je me suis vraiment posé beaucoup de questions parce que j'ai trouvé que, relisant Dune, et c'est un des mystères de Dune, c'était la discussion avec plusieurs des intervenants, en fait, sur le MOOC, c'est que, habituellement, Herbert est quelqu'un qui va à l'économie, c'est-à-dire même si Dune est un roman étendu, il évite de dire deux fois la même chose, il évite les doublons. Et je trouve que par moment, Gurney Halleck et Duncan Idaho ont des fonctions qui se rapprochent. Alors après, quand on connaît l'ensemble du cycle, on voit très bien qu'ils ont des fonctions très différentes. Je serais plutôt fan de Gurney que de Duncan, voilà, en ne parlant que du roman. Mais voilà. Alors, il faut voir aussi qu'après coup, je me suis dit que j'ai beaucoup travaillé sur le clan Atreides. J'ai beaucoup aimé aussi travailler sur la maison impériale, sur les Bene Gesserit, un peu chez les Fremen. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire aussi les articles de Alex Nikolaevitch, oui, sur les Harkonnen, puisqu'en fait, lui a vraiment fait tous les Harkonnen. En fait, on dit souvent d'un point de vue dramatique qu'un bon récit ne vaut que s'il y a des bons méchants. C'est en lisant le MOOC, c'est-à-dire que même moi, j'ai découvert des choses en lisant le MOOC, parce que j'ai lu les articles des autres quand même. Les articles sur Harkonnen m'ont passionné sur le soin qui a été apporté à ces personnages, sur l'ambivalence qui a été... Et puis sur le fait que finalement, on se rend compte que les Atreides, même s'ils sont remarquables, ils font partie du même dispositif qui, comme les Harkonnen, mène le monde à sa perte. Et que si en apparence Atreides et Harkonnen s'opposent, ils ont beaucoup de choses en commun et ce sont en fait des cousins. Alors c'est dit explicitement à plusieurs reprises, c'est deux facettes d'un même monde qui est un monde dangereux en fait.
Oui, puis ça met en crise, là. On a souvent une impression très manichéenne, un peu renforcée malheureusement dans le film de Lynch qui n'a pas pu être ce que Lynch voulait. On se doute bien que Lynch, dans sa version initiale de 6 heures, a dû un truc qui me frustre énormément parce qu'il n'existe vraiment pas de copie de ce premier montage. Mais ce serait vraiment intéressant de voir comment Lynch avait... Et ce serait un beau projet éditorial. Lloyd, je sais que tu es aussi donc, l'homme pour ce genre d'aventure complètement démesurée, mais je pense que ce serait très intéressant d'essayer de retrouver le script au moins ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, quelque chose à faire avec le Lynch. Et donc, on a toujours cette impression que c'est les gentils et les méchants, mais en fait, pas du tout. On voit bien que dans ce contexte géopolitique, c'est des maisons, les références évidentes aussi aux tragédies grecques et aux lignées maudites, etc. Mais on voit bien qu'on est dans une sorte de système féodal cosmique et que le pouvoir, comme dans Les Rois Maudits, etc., c'est différentes manières de jouer le jeu de trône, justement, pour reprendre donc une autre grande saga inspirée justement par Les Rois Maudits de Maurice Thorion. Puis peut-être quand même évoquer les Bene Gesserit, qui sont quand même cette figure incroyable et que tu as analysée.
Oui, alors les Bene Gesserit, il y a sans doute beaucoup de sources d'inspiration du côté de Frank Herbert, mais c'est les jésuites, c'est les catholiques américains, c'est une partie de son éducation, c'est sans doute ses tantes. Parfois, on perçoit Dune comme une œuvre, comme simplement un space opéra, et un space opéra, à certains égards, c'est presque un récit de fantasy dans l'espace, comme s'il n'y avait pas de science-fiction. Alors qu'en fait... Dans Dune, il y a un élément de science-fiction très très fort qu'on perçoit moins aujourd'hui. C'est que dans les années 50, il y avait un peu cette idée que la prochaine frontière, ce n'est pas nécessairement l'espace, c'est la maîtrise des puissances insoupçonnées de l'esprit humain. Et les Bene Gesserit, tout comme les Manta, sont dans le monde de Dune, qui est un monde où donc, les robots sont bannis. Les Bene Gesserit et les Manta, c'est eux qui ont à leur charge de conquérir les ressources insoupçonnées de l'esprit humain. Ils deviennent des sortes de robots humains. Et l'autre aspect des Bene Gesserit qui m'a fasciné, c'est pour ça qu'en fait, Jessica, pour moi, c'est vraiment... c'est pas la grande, le roman n'est pas la geste de Jessica, en fait. C'est que les Bene Gesserit, c'est aussi elle... qui applique en fait le principe d'indéterminisme au fonctionnement de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans Dune de la psychohistoire d'Asimov. Alors, la psychohistoire de Fondation, c'est antérieur à Herbert, mais ils arrivent sans doute à la même expérience de pensée, à la même interrogation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prédire l'avenir? Nous, nous vivons dans l'âge de l'information. On est persuadé d'avoir beaucoup d'informations, mais dans les années 50, avec le développement du mass-média, beaucoup d'auteurs ont l'impression qu'ils sont en surcharge d'informations, qu'en fait, un jour, on va pouvoir prédire l'avenir grâce à ça. Les Bene Gesserit, en fait, les plans dans les plans qu'elles font, c'est du calcul, en fait. C'est-à-dire, tout comme les Manta calculent, les Bene Gesserit calculent. Et il y a cette idée que peut-être un jour, on peut calculer, qu'il y a une forme d'hubris aussi, de croire qu'on peut contrôler le destin. Et en fait, à chaque fois, elles vont... Alors, elles ne sont pas complètement... détrompées, c'est-à-dire que là où elles ont raison, c'est bien que le réel est rationnel, le rationnel est réel, donc de ce côté-là, il y a quelque chose de quasi hégélien chez Herbert, de ce côté-là, leur hypothèse est bonne, là où leur hypothèse n'est pas bonne, c'est leur capacité à intervenir là-dessus et prendre le contrôle de ça, c'est-à-dire que là, pour le coup, elles surestiment un peu leur force.
Bon, le côté aussi du complot jésuitique qui est assez intéressant dans l'histoire de la littérature et de l'imaginaire, etc., qui se transpose, qui se féminise aussi, ce qui est assez intéressant par rapport aux angoisses à l'époque. On parlait du momisme, etc., etc., puis la crainte d'une sorte de matriarcat latent. On retrouve beaucoup, beaucoup d'obsessions dans Dune, de la culture de ces années-là, et elles sont très, très bien analysées dans tes articles et, comme tu disais, dans ceux des autres collaborateurs. Donc, il y a vraiment une galerie très balzacienne, au fond. C'est pour ça que je te posais la question aussi des personnages secondaires. C'est parce que, comme chez Balzac, finalement, certains personnages secondaires deviennent aussi intéressants, sinon plus parfois, que des personnages plus présents. Et c'est de ne pas savoir tout sur eux qui les rend aussi particulièrement attrayants. Par la suite, donc, après avoir fait cette grande galerie des personnages, le livre s'intéresse à cette question aussi tout à fait passionnante sur laquelle on n'aura pas autant de temps pour la traverser, la question des adaptations. Et une des choses que j'ai trouvé intéressante, c'est que toutes les adaptations étaient prises en compte. C'est-à-dire qu'il y a la tentative d'adaptation par Gyodorowski, avec d'ailleurs des entretiens très intéressants, par exemple avec Frank Pavich, donc autour de son magnifique documentaire donc Jodorowsky's Dune. Il y a aussi un très beau texte que j'ai trouvé très sympathique de Rodolphe Casso, donc « Et si le Dune de Jodo était sorti au cinéma ?» Alors là, c'est très drôle parce qu'il imagine que ça aurait été un tel flop que finalement, Lucas n'aurait jamais pu faire Star Wars. Et des aspects très sympathiques comme de Dan O'Brien aurait été tellement découragé qu'il n'aurait pas écrit Alien et qu'il se serait suicidé, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était un what if très, très sympathique de mener jusqu'au bout cette expérience de pensée, de dire, bon, ben, finalement, si ça s'était fait, qu'est-ce qui serait arrivé avec l'histoire de la science-fiction? Et peut-être qu'ironiquement, il n'y aurait pas eu la floraison du cinéma de science-fiction qu'il y a eu dans les années 70-80. Mais on peut aussi, c'est intéressant parce que là, j'aurais aimé peut-être un autre texte qui fasse comme l'hypothèse inverse et qui eût imaginé que Jodorowsky, ça lance quantité d'adaptations de Philippe K. Dick, de Stanislas Lem, etc., qu'on se met à adapter toute la New Wave, Moorcock, Spinrad et tout ça, et qu'au lieu d'avoir les blockbusters riganiens de science-fiction, on aurait eu comme une sorte de truc complètement contre-culturel, hyper sexe, drogue et rock'n'roll de science-fiction. Donc, ça aurait été rigolo d'imaginer cette autre possibilité, mais j'ai beaucoup aimé cette ironie. Il y a, entre autres, donc, le storyboard donc de Dune. Il y a, bien sûr, Lynch, avec un entretien très intéressant aussi, je dois dire, avec Rafaela de Laurentiis. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant. Et l'éloge d'un échec, je trouve ça d'ailleurs un titre très beau de François Teurel. Et effectivement, c'est un échec. Et des fois, et c'est ce que Teurel en vient à démontrer, des fois, il y a des échecs qui sont même plus intéressants qu'un triomphe. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a matière. Moi, j'avais beaucoup aimé le film de Lynch quand même quand c'était sorti. Bon, le début est extraordinaire. La fin, ça devient plus blockbuster. On sent que les producteurs ont comme beaucoup plus tripatouillé la fin. Mais la manière dont tout l'univers est installé, etc., je continue à penser que c'est extrêmement intéressant. Visuellement, c'est fascinant. Il y a tout le côté baroque qui est très bien rendu, le côté très inquiétant de cet univers-là aussi. Et effectivement, je pense que c'est plus l'impression de la tristesse de ne pas avoir accès au premier montage, le sort de martyr non, du film et de mutilation qui est très triste. Mais ça reste, je pense, un film qui a beaucoup marqué les générations. Il y a l'aspect de la musique qui est intéressant aussi, que vous traitez. Il y a l'adaptation en BD avec le Official Comic Book, etc. Un autre truc un peu utopique, un peu uchronique intéressant, la carte blanche à Paul Pope pour que serait son adaptation. Il y a la question du jeu de société, le jeu de cartes, le jeu de rôle. Il y a la série aussi que j'avais beaucoup aimée sur Sci-Fi Channel, que je trouve que avant cette sorte d'âge d'or des séries qu'on connaît, je pense que c'est quand même un jalon tout à fait honorable dans l'histoire des séries de science-fiction. Et je trouve que justement, eux, en ayant eu la chance d'adapter l'intégralité de l'histoire, là, ça devenait très intéressant avec Children of Dune. Il y a donc le jeu vidéo. J'ai découvert beaucoup de choses aussi là-dedans. Et puis enfin, donc, cette dernière partie où il y a quantité de réflexions sur l'art de la guerre, la géopolitique, les spiritualités, l'écologie, la génétique, la psychanalyse, l'aspect féministe, les études animales, le rôle des animaux. Anne Besson qui se pose la question de si on considérait Dune comme de la fantasy, le rapport avec Game of Thrones, le rapport avec Star Wars, et puis ça ouvre aussi des perspectives sur les différentes suites. Donc, tout ça est véritablement une réussite. Lloyd, de quoi es-tu le plus fier, disons, dans tout cet ensemble?
La première chose dont je suis le plus fier, c'est que quand même Aurélien Polis, qui était donc l'illustrateur de quasiment une bonne partie des illustrations et des portraits, soit devenu le nouveau dessinateur officiel de la saga Dune chez Robert Laffont. Donc, il remplace Wojtek Szumak. C'est vrai qu'Aurélien, je voulais travailler avec lui depuis le début et ça avait été vraiment un vrai choix esthétique, artistique. Et donc, voilà, qu'il soit validé, qu'il devienne le nouvel illustrateur. Il y a aussi en plus le côté filiation, où il y a beaucoup de Wojtek Szumak et en même temps il y a beaucoup d'Aurélien Polis. Il y a une filiation entre les deux et ça voilà, je suis très content parce que pour moi un projet qui permet à d'autres personnes de continuer leur carrière et d'ouvrir d'autres portes, pour moi c'est ça quoi, ce qui est super qu'on travaille sur ce genre de choses. Et puis l'autre fierté, c'est que ça a été un énorme succès quoi. On a eu, je pense, au moins une vingtaine de médias.
Non, absolument, félicitations et pour tout ce travail. On sent que c'est une œuvre. Je pense que c'est aussi le succès d'une formule. Quel serait le prochain MOOC, idéalement, Lloyd?
Il y a des grosses réflexions. C'est vrai que moi, j'aimerais bien faire un Blade Runner pour continuer le Super. Prolongement avec Denis Villeneuve, avec la Warner Bros. Super. On réfléchit aussi à, pourquoi pas, quelque chose autour de Batman. Donc, rien c'est à voir, plus le SF, mais plutôt comics. Mm-hmm. Évidemment, je voudrais faire un Star Trek un jour.
On le souhaite. Et donc, bonne chance avec les MOOC. Bonne chance avec aux Forges de Vulcain et on espère vous revoir bientôt.
Ben, merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve bientôt.
Super. Merci beaucoup. Hein, encore une fois, félicitations pour ce très beau livre qu'on recommande à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir et à la semaine prochaine pour nos auditeurs et auditrices.